dans l'épître aux Hébreux. Nous avions, il y a 15 jours, je pense, étudié un peu chapitre 10. Nous voulons revenir à ce chapitre 10. L'épître aux Hébreux. Et nous voulons lire la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 22. Hébreux, chapitre 10, 14 à 22. Écoutons donc la parole de Dieu. Car par une seule offrande, il a amené, donc Jésus-Christ, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ceci est la parole de Dieu. Nous allons nous arrêter là pour la lecture. Nous voulons prier. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole qui est la vérité. Et nous te demandons que ton esprit nous illumine afin que nous saisissions ta parole et que nous soyons obéissants à ce que tu nous enseignes. Conduis-nous pour la gloire de ton nom. Amen. Ce qui guette le plus souvent, peut-être, le chrétien, c'est le refroidissement spirituel. Quand on lit cette lettre, cette épître aux Hébreux, on voit combien le peuple était découragé et certainement refroidi spirituellement au point de vouloir retourner en arrière. Et il y a souvent tellement de sollicitations, parfois des sollicitations extérieures pour nous, par exemple amusement, souci de la vie, séduction, beaucoup de choses. Et puis parfois ce sont des débats intérieurs que l'on a, des opinions sur des choses, des conceptions que nous nous faisons de la vérité, et tout cela peuvent œuvrer et risquent souvent de nous amener, à nous éloigner même parfois de Dieu. Dans l'épître aux Hébreux, on trouve, je crois au chapitre 3, un avertissement dans lequel l'auteur dit de prendre garde afin que personne ne se détourne du Dieu vivant. C'est qu'il y a le risque de se détourner du Dieu vivant. Il ne parle pas, bien sûr, de perdre son salut, mais il parle de se détourner de ceux qui pourraient s'éloigner de Dieu à cause des difficultés, notamment pour les lecteurs de l'auteur ici, se détourner à cause des difficultés, de la persécution qu'ils pouvaient connaître. L'Épître, donc, met clairement en évidence le lien qui existe entre la conduite chrétienne de ces judéo-chrétiens et puis leur connaissance et la compréhension du sacrifice de Jésus-Christ. Parce que quand vous lisez l'épître aux Hébreux, la chose qui saute de toute évidence, c'est la présentation de la supériorité du sacrifice de Jésus-Christ. On a lu ce matin les premiers versets de cette épître et je vous rappelle, il dit autrefois, après avoir à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils et puis à partir de ce moment, toute l'épître parle du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, dans son œuvre, dans son sacerdoce, dans tous ses ministères, dans sa supériorité, etc. Donc si vous regardez donc juste au chapitre 10, hein, tous ces chapitres sont une exposition où l'auteur parfois reprend les mêmes thèmes, mais de l'excellence de la nouvelle alliance, l'excellence du sacrifice de Jésus-Christ. Et donc, c'est parce que c'est toujours au niveau de la connaissance, de la compréhension de toutes les implications du sacrifice de Christ que nous avons les plus grands problèmes. Et c'est là que se situent nos difficultés. Notre manque de consécration, notre manque de sanctification vient de notre mécompréhension de la sainteté du sacrifice de Christ. Notre légalisme, souvent, quand nous voulons faire ceci, faire cela, etc., vient aussi de notre mécompréhension de la suffisance du sacrifice de Jésus-Christ. Notre manque de paix et notre conscience parfois tourmentée vient de notre mécompréhension de la portée même du sacrifice de Jésus-Christ. Et ce que nous pensons à l'égard du sacrifice de Christ détermine comment nous vivons. Ce que nous pensons à l'égard du sacrifice de Christ détermine comment nous vivons. Et donc il y a un lien étroit entre notre manière de vivre et notre considération de l'œuvre de Christ, du sacrifice de Christ. Et c'est pour amener, je pense, ces lecteurs en tout cas, et puis nous aussi, les chrétiens, à un véritable culte, parce qu'il est question ici de culte, les questions de culte que l'on rend à Dieu hein, dans cette épître. C'est pour amener donc les chrétiens à un véritable culte que l'auteur de l'épître aux Hébreux écrit concernant l'excellence du sacrifice de Christ. Et donc son désir est de conduire les chrétiens à l'obéissance dans la communion avec Dieu. Et la grande invitation, la grande exhortation qui est faite se trouve, je crois, dans le verset 22 que nous avons lu, où il dit « Approchons-nous donc ». Approchons-nous donc. Et c'est le titre de notre message ce matin. Approchons-nous donc. C'est un thème qui est cher aussi à cette épître. Hein, si vous regardez au chapitre 4 et au verset 16, il est dit, chapitre 4, verset 16, Hébreux chapitre 4, verset 16, il est dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. » pour être secouru dans tous nos besoins. Et le verset 15 dit, nous avons un souverain sacrificateur, approchons-nous donc. Donc, mets le projecteur sur Jésus-Christ dans son sacrifice, et puis dit, nous devons donc nous approcher. Chapitre 7, par exemple au verset 19, chapitre 7, verset 19 dit, la loi n'a rien amené à la perfection, et il y a donc introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Question ce culte dans lequel on s'approche de Dieu, on va avoir une intimité avec lui. Chapitre 7, verset 25, l'auteur dit, c'est aussi pour cela qu'il peut, que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent corps de Dieu. Il a en tête vraiment fait que nous devons nous approcher de Dieu. Chapitre 11, verset 6, vous connaissez bien ce verset, il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Il parlait d'Enoch, et puis il dit, « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Encore là, il parle du fait de s'approcher, de la nécessité de la foi pour s'approcher de Dieu, chapitre 12 et au verset 18, chapitre 12 et au verset 18, il dit, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher Et puis au verset 22, il dit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Voilà. Et c'est, je crois que cette exhortation qui est faite au verset 19 est ce pourquoi l'auteur écrit toutes ces choses. Il dit, voilà comment nous pouvons rendre un culte. Vous ne devez pas vous éloigner de Dieu, vous devez au contraire vous approcher de Dieu. Et si vous comprenez convenablement le sacrifice de Christ qui a été accompli à la croix du calvaire, vous devez vous approcher de Dieu. Approchons-nous donc, hein. C'est sa conclusion et c'est après tout ce qu'il développe à partir de ce verset jusqu'au chapitre 13, c'est éminemment pratique, mais les 10 premiers chapitres sont une exposition du sacrifice de Christ pour amener ici les chrétiens à s'approcher de Dieu. Et souvent, nous avons tendance, peut-être parfois, à nous éloigner. Hein. On s'approche, on veut s'approcher, mais on a plutôt tendance à s'éloigner. Quand rien ne va dans notre vie, eh bien, pouf, on s'éloigne, on prend du recul. Hein. On aime bien, parfois, suivre à distance, sans trop s'engager. Mais ce que l'Épître nous montre ici, c'est que Dieu a fait tout pour que les adorateurs puissent jouir d'une proximité avec lui. Et il invite à cette proximité. Approchons-nous donc en vertu de tout ce qui a été fait. Donc nous voulons voir ce matin peut-être trois raisons, on pourrait dire, pour lesquelles nous pouvons nous approcher. Approchons-nous donc, je dirais premièrement, car par son sacrifice, Christ nous a amenés à la perfection pour toujours. Approchons-nous, car par son sacrifice, Christ nous a amenés à la perfection pour toujours. Le verset 14 que nous avons lu dit, car par une seule offrande, Hébreux 10, 14, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Les versets suivants, il explique ce que c'est que cette perfection, puis il dit, ainsi donc, voilà ce que nous avons, alors approchons-nous. Christ, par son sacrifice, nous a amené à la perfection pour toujours, alors approchons-nous. Donc approchons-nous, donc, car par son sacrifice, Christ nous a amenés à la perfection pour toujours. La question de la perfection est cruciale dans la relation entre le Dieu saint et puis celui qui rend un culte à Dieu. Notre passage, les premiers versets du chapitre 10, montrent cet état dans lequel étaient les adorateurs dans la structure du culte lévitique sous l'Ancienne Alliance, où il dit qu'il n'avait pas la conscience tranquille, et il dit même qu'on ne pouvait pas atteindre la perfection. Alors si je regarde au verset 1, il est dit, « En effet, la loi qui possède les ombres des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » Ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui est important. Il dit, quand l'auteur dit ce que la loi ne peut pas faire, c'est que cette chose est quand même importante et qu'il montre l'impossibilité des sacrifices que l'on renouvelait dans la loi d'amener à cette position-là. C'est pour ça qu'il dit, mais Christ, par son unique sacrifice, a amené à la perfection pour toujours. Et donc, nous pouvons maintenant nous approcher. Et donc, les sacrifices de l'Ancienne Alliance ne pouvaient jamais. Et puis, cette absence de perfection est soulignée dans Hébreux chapitre 7, verset 11. Vous pouvez regarder cela. Hébreux chapitre 7 et verset 11. Il dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, était-il nécessaire encore qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? S'il y avait la perfection l'ancien système, est-ce qu'il aurait été nécessaire d'avoir un autre sacrificature. Verset 19, chapitre 7, verset 19, il dit « Car la loi n'a rien amené à la perfection ». Chapitre 9, verset 9, il dit ici « C'est un symbole pour le temps présent ». Il parle donc du tabernacle et puis du fait que les sacrificateurs rentrent dans le lieu saint et puis qu'une fois par an, le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint. Verset 9, il dit « C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. » Vous voyez ici. Et puis au chapitre 10, verset 1, nous l'avons déjà lu ici. Donc la conscience de l'adorateur n'était pas libérée, il n'était pas parfait sous le rapport de la conscience à cause de la répétition des sacrifices. Et le texte nous dit dans les premiers versets du chapitre 10 que même cette répétition, loin de rendre parfait la conscience, ramenait le souvenir des péchés. Donc les sacrifices qui étaient offerts ne pouvaient jamais rendre parfait et ne pouvaient jamais non plus ôter le péché. Chapitre 10, verset 4, il le dit très, très clairement. Il dit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché ». Et puis chapitre 10, verset 11, il dit « Et tandis que tout sacrificateur, chaque jour, fait le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché ». Donc, il y a deux choses ici. Il y a l'impossibilité d'amener l'adorateur, celui qui rend un culte, à la perfection. Et aussi le fait que le péché n'est pas ôté. Le péché n'est pas ôté. Même il est rappelé constamment au souvenir. Et il dit ça, c'était la limite de l'ancienne alliance. Mais Jésus-Christ, par son sacrifice unique, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et pour soutenir cela, l'auteur va faire appel, verset 15 ici, au prophète Jérémie, et va citer le prophète Jérémie, Jérémie chapitre 31, il va citer les versets 33 et 34, et il dit que c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Et il attribue cela au témoignage du Saint-Esprit, et il cite ici, il dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leur iniquité. Voilà donc ce que l'auteur dit ici, je crois qu'il décrit ici cette perfection. À quoi elle consiste? Eh bien, en une parfaite transformation intérieure. Ce qui rendait le culte sous l'ancienne alliance n'était pas transformé. Ils avaient les lois qu'ils devaient observer. Et puis, ils n'étaient pas intérieurement transformés. Et ici, l'auteur dit que ce que Jérémie annonce, c'est cette perfection qui est lié à l'œuvre de Christ. Et parce que ce que Dieu va faire, c'est qu'il a promis qu'il mettra ses lois dans le cœur et qu'il les écrira dans l'esprit. Et sous l'ancienne alliance, tout était donné de manière extérieure sur des tables. On se rappelle les 10 commandements, la loi, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu feras ceci, tu feras cela. Et puis même, ce qui était dit, c'est que sous l'ancienne alliance, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, Dieu avait fait des promesses de bénédiction à condition que le peuple obéisse. Hein, vous lisez le Deutéronome, si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu obéis à ma loi, alors tu auras ceci. Mais si il y avait la désobéissance, eh bien, il y avait aussi la malédiction qui tombait sur le peuple. Et ici, sous la nouvelle alliance, quelle est la différence? Eh bien, Dieu ne dit pas, si vous faites ceci, alors je ferai cela. Mais il dit, voici ce que je ferai. Il dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. C'est-à-dire que c'est lui-même qui prend complètement sur lui d'implanter sa loi au-dedans de ceux qu'il rachète de son peuple, afin de les rendre capables de suivre et d'obéir à sa loi. Et cette perfection qui vient avec l'œuvre de Christ vient que par le fait que Dieu donne à ceux qui le reçoivent son esprit et par lequel il implante sa loi dans leur cœur et dans leur esprit. Une parfaite transformation intérieure. Et donc, l'adorateur maintenant peut suivre, il peut obéir parce que c'est du dedans que Dieu, que le Saint-Esprit œuvre en lui. Prenez l'exemple, si vous voulez, on pourrait dire, hein, parfois on voudrait que nos enfants obéissent. Hein. Si vous n'avez pas d'enfants, bon, on voudrait que notre petit-neveu obéisse, je ne sais pas, prenez qui vous voulez, vous êtes, ou que nos élèves obéissent. Hein. Et on leur donne un certain nombre de consignes à lesquelles ils doivent se soumettre. Mais parfois, on sent bien que, bon, ils ne peuvent pas. Et ce qu'on aurait aimé, des fois, c'est de pouvoir être à l'intérieur d'eux-mêmes, et puis pour les pousser, pour disposer leur cœur à faire ce que on voudrait qu'ils fassent. Mais on ne peut pas faire cela. D'accord ? Et ça, le Saint-Esprit le fait au-dedans de nous. Il inscrit la loi de Dieu dans notre cœur, dans notre esprit, afin de rendre ceux qui adorent Dieu, ceux qui sont au Seigneur, ceux qui sont à Jésus-Christ, capables d'obéir à sa loi. Et puis, notez aussi la parfaite rémission de péché. L'auteur dit « Je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leurs iniquités ». Et là, on a le contraste hein, avec ce qui était établi sous l'Ancienne Alliance, où il est dit que les sacrifices n'ôtaient pas le péché. Les sangs des boucs et des taureaux ne pouvaient pas ôter le péché. Et l'auteur dit ici que Dieu lui-même dit « Je ne me souviendrai plus de leur péché ». C'est-à-dire, c'est une rémission, un pardon parfait ici. La plénitude du pardon qui est obtenu ici est prouvée par le fait que c'est Dieu lui-même qui accorde le pardon. « Je pardonnerai leurs péchés ». Dans Jérémie, il est dit « Je pardonnerai leurs péchés hein. ».« Je ne me souviendrai plus de leur iniquité ». C'est celui qui est offensé par le péché qui accorde le péché. C'est ainsi que ça doit se passer. Hein. Si quelqu'un vous fait du tort, vous ne voudriez pas que je dise à la personne qui vous a fait du tort « Ben écoute, je te pardonne ». Hein? Non, c'est vous qui avez subi le tort et c'est vous qui devez pardonner. Et quand on pêche, c'est Dieu. La question du péché, c'est contre Dieu que nous avons péché. Et Dieu lui-même dit, en vertu du sacrifice de Christ qui a été accompli, je ne me souviendrai plus de leurs péchés et ni de leurs iniquités. Et donc, c'est quelque chose que nous devons considérer ici. Lorsqu'on est en Christ, Dieu dit, je ne me souviendrai plus. Il dit pas, je ne me souviendrai pas, et puis je rappellerai, c'est je ne me souviendrai plus du tout de vos péchés. C'est un pardon parfait. Le sacrifice de Christ a amené un pardon parfait. Et c'est pour cela que l'auteur dit qu'il nous a amenés à la perfection sous le rapport de la conscience, lorsque l'on place sa confiance en Jésus-Christ et qu'on sait que la question du péché est définitivement réglée auprès de Dieu. Nous pouvons venir à lui avec une conscience tranquille. Il n'y a plus de souvenir du péché qui est renouvelé. Lorsque nous, on l'a vu la dernière fois, lorsque nous participons à la table du Seigneur, c'est le souvenir du sacrifice de Christ que nous rappelons, pas le souvenir de nos péchés. Alors que sous l'Ancienne Alliance, lorsqu'ils offraient des sacrifices, c'est le souvenir des péchés qui revenaient, et pas le sacrifice. Vous voyez la différence ici ? Nous louons, nous approchons de la table du Seigneur pour le louer en vertu du sacrifice qu'il a accompli pour nous à la croix du calvaire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux veut que ses lecteurs écoutent attentivement ce que Dieu lui-même dit concernant les péchés de ceux qui placent en lui leur confiance. Il dit, ce n'est pas votre sentiment qu'il faut écouter. Parfois, on écoute nos sentiments sur les péchés. Oui, je sais que Dieu me pardonne, mais... Et puis, on ajoute plein de choses derrière. Okay. Oui, je sais que le culte de l'ancienne alliance, c'est... Mais on veut retourner au culte de l'ancienne alliance. Et parfois, on a des opinions qui viennent de nous-mêmes, des sentiments qui viennent de nous-mêmes sur ce que Dieu a fait concernant le péché. L'auteur dit, voilà ce que Christ a fait. Voilà ce qui est. Et c'est ce que vous devez avoir dans votre esprit. Christ, par son sacrifice, vous a rendu parfait pour toujours. Point. Ce n'est pas vous qui décidez. Sacrifice, par son sacrifice, il vous a rendu, vous qui croyez en lui, qui avez placé votre confiance en lui, parfait pour toujours. Pour toujours. C'est important ici. Et vous n'avez donc pas à vous tourmenter l'esprit avec votre péché. Vous avez à vous remplir l'esprit avec ce que Dieu a fait par Jésus-Christ. À vous imprégner de ces vérités. À les recevoir dans votre cœur, à les accepter. Et à vous approcher de Dieu. Parce que par le sacrifice de Christ, il vous a amené à la perfection pour toujours. Spurgeon a dit, vos anciens péchés ont été ensevelis et ils ne connaîtront jamais la résurrection. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Approchons-nous donc, car par son sacrifice, Christ nous a amenés à la perfection pour toujours. On ne peut pas s'approcher de Dieu si on n'est pas parfait. On ne peut pas s'approcher de Dieu si on n'est pas parfait. Mais parce que par le sacrifice de Christ, selon ce que le Saint-Esprit dit ici à travers cette épître, on est amené à la perfection, ceux qui sont à Jésus-Christ et qui ont placé leur confiance à Jésus-Christ, eh bien, il dit, vous devez vous approcher de Christ. Vous devez rechercher cette communion avec Dieu, cette intimité avec Dieu. Parce que c'est pour cela qu'il vous a rendu parfait. Deuxièmement, approchons-nous donc, car par son sacrifice, Christ nous offre un plein accès à Dieu. Approchons-nous donc, car par son sacrifice, Christ nous offre un plein accès à Dieu. Regardez les versets 19, il dit « Ainsi donc, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » La version second 21, il est dit « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » La disponibilité de l'accès à Dieu implique que l'on s'approche de Dieu. Puisqu'il y a un accès qui est ouvert, un accès qui est donné, un accès qui fait la part, qui est la part, le lot du chrétien, eh bien, l'auteur dit ici, il faut donc s'approcher. L'accès n'est pas simplement pour nous dire qu'il y a un accès. L'accès est pour nous inviter véritablement à nous approcher de Dieu. Et quelle chose étrange que de disposer d'un accès auprès de Dieu et de ne pas s'approcher de lui. Jusque-là, chers frères et sœurs, dans le culte qui était pratiqué sous l'ancienne alliance, l'adorateur ne pouvait pas accéder à la présence de Dieu. Il ne pouvait pas. Il n'était pas parfait sous le rapport de la conscience. Mais tout était fait. Quand on lit l'Ancien Testament, on a l'impression que tout était fait, même pour le tenir à distance. Rappelez-vous, lorsque Dieu parle à Moïse, qu'il donne la loi sur le Sinaï, il dit « Descends et fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. » Il n'y avait que des avertissements à ne pas s'approcher, à ne pas toucher. Lorsque Moïse voit le buisson pour la première fois et puis qu'il veut se détourner pour regarder, ça, vous vous rappelez ce que Dieu lui a dit? N'approche pas d'ici, car le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu, tes souliers, car le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint. Le tabernacle même qui symbolisait la présence de Dieu au milieu du peuple était conçu d'une manière à tenir à distance. L'accès au tabernacle était extrêmement légiféré. Le montage et le démontage du tabernacle étaient très légiférés. On ne pouvait voir les choses qu'il y avait à l'intérieur du lieu très saint. Vous vous rappelez, il y avait donc l'enceinte du tabernacle, et puis ensuite il y avait dans le sanctuaire, il y avait deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. C'est ce que l'épître aux Hébreux explique, chapitre 9. Vous regardez au chapitre 9 pour avoir une petite idée rapidement. On ne va pas lire tout, mais chapitre 9, au début du verset 1, il explique un petit peu toutes ces choses. Verset 2, il dit « En effet, dans le tabernacle fut construit dans la partie antérieure appelée lieu saint, étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'encensoir, etc. » Et puis après, verset 5, il dit « Bon, ce n'est pas ici le moment de parler en détail là-dessus, donc nous non plus nous ne le ferons pas. » Mais verset 6, il dit « Les choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul, entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. » Autrement dit, et si vous regardez, si vous lisez un petit peu comment était conçu le tabernacle, il y avait des tentes, il y avait des séparations, des voiles, et le lieu très saint était recouvert. Personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint. On arrivait, et certainement c'était quelque chose d'assez frappant, avec de grandes tentures, etc. Tout montrait qu'il y avait quelque chose là, mais qu'on ne pouvait pas s'approcher. Et l'adorateur, sous l'ancienne alliance, ne pouvait pas s'approcher de Dieu tel qu'il est décrit ici dans notre chapitre 10. Il y a un épisode dans la vie du peuple, vous vous rappelez, où certains hommes ont voulu regarder ce qu'il y avait dans l'arche, ici. Et la Bible nous dit que l'Éternel frappa les hommes de Beth-Shemesh, car ils regardèrent dans l'arche de l'Éternel. Et il frappa du peuple 70 hommes, et le peuple mena deuil parce que l'Éternel avait frappé le peuple d'un grand coup. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu s'approcher d'une chose sainte et regarder. On a l'impression que tout était fait pour limiter de manière considérable l'accès. Seul le souverain sacrificateur, une fois par an, pouvait rentrer dans le lieu très saint, non sans avoir offert du sang pour ses propres péchés. C'est dire combien c'était quelque chose de saint, d'important ici. Et on pourrait dire certainement, quand quelque chose est comme ça, caché, qu'on n'a pas accès, on a envie d'avoir accès. Certainement, le peuple avait envie d'avoir cet accès dans ce lieu. C'était redoutable. La conscience n'était pas tranquille pour s'en approcher, mais certainement cela suscitait un certain nombre de curiosités. Sous l'ancienne alliance, sous la nouvelle alliance, pardon, l'auteur dit « Approchons-nous du lieu saint, du sanctuaire, parce que par son sacrifice, Christ nous offre un plein accès dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le saint des saints, dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu. Chaque chrétien véritable a, en vertu du sacrifice de Christ, un libre accès dans la présence même de Dieu. C'est ce qu'il a. Nous avons, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, un libre accès. Et ce que l'exhortation qui est faite ici, c'est parce que nous avons ce libre accès, alors approchons-nous donc. Dieu nous invite à venir partager sa sainte communion, sa sainte proximité. Et quand on saisit ce que Christ a fait par son sacrifice, on comprend que l'accès est ouvert maintenant, eh bien nous pouvons nous approcher.
son enseignement, ce n'était pas possible. Hébreux 9, je vous lis, Hébreux 9, verset 8 dit, « Les choses étaient disposées ainsi, et le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. » Mais maintenant, il est ouvert en vertu du sacrifice de Christ. Et l'auteur dit que c'est au travers du voile, au travers de sa chair, de son sacrifice, que Christ a, bien sûr, ouvert cet accès. Il dit, hein, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et donc, c'est la part de tout chrétien d'avoir cet accès auprès de Dieu. L'apôtre Paul dit la même chose. Il dit, en parlant aux Éphésiens, il dit que Christ est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient près. Vous voyez, il parle à un moment donné de ce mur de séparation qu'il y a, et il dit qu'il a abattu ce mur de séparation, il est venu apporter la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient près, donc aux Juifs et aux Grecs. Et il dit ici, car par lui, par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons, par Jésus-Christ, accès auprès de Dieu, le Père. Est-ce qu'on imagine ce que cela veut dire, hein? J'ai du mal, hein? La sainte présence de Dieu, le Dieu que le peuple ne pouvait pas approcher, que le souverain sacrificateur, choisi par Dieu, dans une maison particulière, dans un peuple particulier, une seule fois par an, il pouvait rentrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, cet accès est ouvert à tout enfant de Dieu. Alors, l'auteur dit, il ne faut pas retourner en arrière, il faut vous approcher. Il faut vous approcher, pas de n'importe quelle manière. Il faut vous approcher, comme il le décrit plus tard, mais par cette route nouvelle et vivante. Jésus-Christ est la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. On dit souvent que tous les chemins mènent à Rome. C'est un peu vrai religieusement parlant, hein, parce que l'Église catholique fait tellement de grands écarts qu'elle arrive à englober toutes les cultures, toutes les croyances, et puis à s'adapter à elles. Et dans ce sens, on aurait dit que tous les chemins mènent à Rome. Mais à Dieu, tous les chemins ne mènent pas. À Dieu, c'est par Jésus-Christ qu'il faut passer. Il est le chemin, la vérité, la vie. Le chemin a été tracé au travers de son corps qui a été rompu, brisé, de son sacrifice qui a été accompli à la croix du calvaire. Et la Bible dit que lorsque Christ était sur la croix et qu'il a dit « tout est accompli », qu'il a rendu son esprit, eh bien, le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Et on pourrait dire que ça signifie, voilà, maintenant, l'accès dans la sainte présence de Dieu est rendu possible. Approchons-nous donc, car par son sacrifice, Christ nous offre un plein accès à Dieu. Et puis troisièmement, approchons-nous donc, car si par son sacrifice, Christ est établi en grand intercesseur. Regardez le verset 21, il dit « Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Nous pouvons donc nous approcher parce que nous avons la personne de Christ et au travers en vertu de son sacrifice, un souverain sacrificateur. C'est ce que nous avons eu en Hébreux chapitre 4. Approchons-nous donc, parce que nous avons un souverain sacrificateur. Mais regardez surtout dans Hébreux chapitre 7, verset 24, où c'est beaucoup plus clair, je pense. Hébreux chapitre 7, verset 24. Il est dit, mais lui, Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Les autres sacrificateurs mouraient, d'accord, donc le sacerdoce devait être transmis, mais Christ, il est vivant, à jamais. Donc, il n'y a plus de transmission du sacerdoce. Il dit donc verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, on a encore cette idée de perfection ici, sauver parfaitement ceux qui s'approchent, encore une fois, notre thème, de Dieu par lui, étant toujours vivant, pourquoi ? Pour intercéder en leur faveur. Donc, approchons-nous, c'est notre point ici, car par son sacrifice, Christ est établi un grand intercesseur. Il intercède pour nous. C'est ce que la Bible dit ici. Il peut sauver encore parfaitement. Il parle à des chrétiens ici. Ils sont déjà en Christ. Ils ont déjà l'assurance qu'ils sont sauvés. Mais on pêche, n'est-ce pas, par moment. Et on a besoin d'être sauvés des péchés que nous continuons à commettre. Nous ne devrions pas pécher, mais nous péchons, n'est-ce pas? L'apôtre Jean disait, « Petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. » Le verset, la phrase d'après, « Et si quelqu'un a péché, qu'est-ce qu'il dit ? Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » L'Épître aux Hébreux dit, il est le souverain sacrificateur, il sauve encore parfaitement et il intercède. Il dit, écoutez bien encore comment il dit cela, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, par Jésus-Christ, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, Christ a un ministère continuel d'intercession pour ses enfants, pour son peuple. Cela doit nous encourager à nous approcher de lui. Lorsque nous péchons, nous ne devons pas fuir sa présence. Mais nous devons confesser notre péché. Sachant que Christ est auprès du Père et qu'il intercède pour nous. Parce qu'il est vivant à jamais et qu'il est établi un grand sacrificateur dans la maison de Dieu. L'apôtre Paul dit exactement la même chose dans l'Épître aux Romains. Il dit, qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Parfois, nous nous accusons nous-mêmes. Oh, j'ai péché, je suis perdu. Il dit, mais qui peut accuser les élus de Dieu ? Personne ne peut le faire. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui justifie. Il dit que Christ, qui les condamnera ? Qui peut les condamner ? Il dit que Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu ? Il intercède pour nous. C'est ce que Christ fait. Je vous pose une question. Pensez-vous que Christ échouera dans son ministère d'intercession ? C'est absurde ce que je dis, n'est-ce pas ? Non. Il intercède avec succès. C'est ça qu'il faut entendre ici. Donc lorsque nous péchons, ce n'est pas la peine de nous lamenter sur notre péché. Au lieu d'avoir les yeux rivés sur notre péché, confessons le péché. Détournons-nous, mais regardons à Christ qui intercède pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Cela n'est pas un encouragement à pécher. L'apôtre Jean le dit très clairement. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Il ne dit pas qu'il faut pécher. Il ne dit pas que ce n'est pas un encouragement à pécher. Mais il dit, lorsque cela arrive, parce que ça arrive, eh bien, ne vous tourmentez pas sur votre péché. Ne dites pas, je veux revenir comme j'étais. Oh, c'était mieux dans le monde, etc. Il dit, regardez au sacrifice de Christ qui a été accompli à la croix du Calvaire. Il vous a rendu parfait pour toujours. Il vous a ouvert un accès libre, large, complet auprès de Dieu le Père. Et il intercède pour vous en vertu du sacrifice qui a été accompli à la croix du Calvaire. Nos péchés ne doivent pas maintenir nos regards en bas, mais nous pousser vraiment à aller confesser à Jésus-Christ. Donc que le Seigneur nous aide vraiment à considérer ces choses. Je voudrais en conclusion dire, mais comment est-ce que nous devons quand même nous approcher de Dieu ? Parce que notre texte répond à cette question, verset 22, prenons le verset 22. Il dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. C'est lui qui met sa loi dans notre cœur, qui fait que nous aimons sa loi. Comme l'apôtre Paul le dit, hein, il dit qu'il il prend plaisir à la loi de Dieu dans l'homme intérieur. Hein, et parce que cette loi a été implantée dans son cœur par le Saint-Esprit. Mais Dieu veut que nous nous approchions de lui avec un cœur sincère, un cœur droit. Le cœur sincère désigne le cœur qui est vrai, le cœur qui est authentique, le cœur qui se soumet aux lois de Dieu, le cœur qui accepte ce que Dieu dit dans sa parole concernant l'efficacité du sacrifice de Jésus-Christ, concernant la perfection qui est apportée aux rachetés, concernant l'accès que le chrétien a dans la présence de Dieu, concernant le ministère d'intercession de Jésus-Christ, concernant la sécurité dans laquelle le Seigneur place ses enfants. Le cœur droit, c'est le cœur qui accepte ces choses, le cœur qui ne se contente pas d'offrir une heure et demie, peut-être deux le dimanche matin au culte. Et puis le reste de la semaine passe le temps à autre chose, la télé, les amis, je ne sais pas, que sais-je. Le cœur droit, c'est le cœur qui est vrai, c'est le cœur qui est constamment consacré à Dieu. C'est ainsi qu'il faut s'approcher de Dieu, avec un cœur droit. Jésus avait cité les paroles du prophète Isaïe qui disait dans Isaïe 29, vous vous rappelez, « Quand ce peuple s'approche de moi, il fait quoi ? Il m'honore des lèvres, mais son cœur est loin. » Oui. Le corps peut s'approcher alors que le cœur est loin. Et ce n'est pas ainsi que Dieu veut que nous venions dans sa sainte présence. Chaque jour de notre vie. Chaque jour de notre vie. Il veut que nous venions avec un cœur sincère. Et on n'a pas le temps de lire tous ces versets, mais dans 2 Timothée 3, 2, 5, vous pourrez lire un peu la description que Paul donne d'un cœur qui n'est pas sincère. Hein, quand il parle de la rébellion contre les parents, les amis de l'argent, les gens, etc. On n'a pas le temps de revoir ces choses, mais on a une description des cœurs qui ne sont pas du cœur qui n'est pas sincère. Mais David, lui, lorsque il exprime sa prière de repentance, dit « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et c'est ça qu'il faut, un cœur dans lequel la vérité de Dieu est implantée. Ça l'est parce que Jérémie dit que Dieu met sa loi dans notre cœur, mais un cœur qui vive aussi selon cette vérité, d'une manière vraie et authentique pour Dieu. Approchons-nous, dit-il aussi, dans la plénitude de la foi. De la plénitude de la foi. Une foi vraie qui accepte tout ce que la parole de Dieu enseigne, tout ce que l'Écriture enseigne, qui ne dit pas « mais ça, c'est Paul qui dit ça, et ça, c'est Jésus. Moi, je crois à Jésus, mais je ne crois pas à Paul. » Il y a des gens qui font comme ça. Hein. J'ai parlé avec quelqu'un il y a quelques temps déjà qui me dit « moi, Paul, il ne faut pas m'en parler. Hein. » Jésus, oui, Paul, non. Voilà. C'est la parole de Dieu. Tout ce que nous avons lu est la parole de Dieu. Que ce soit Jérémie. Vous voyez ici, le prophète Jérémie parle de quelque chose et l'auteur de l'épître de Jacques nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a attesté de ces choses. Donc, la parole, toute l'Écriture est inspiré de Dieu. Nous devons le croire. Et c'est avec cette disposition de plénitude de la foi que nous devons aussi nous approcher de Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et Dieu ne partage pas sa présence avec des personnes qui ne lui sont pas agréables. Donc il faut croire pour pouvoir s'approcher de Dieu tel qu'il nous le demande et tel qu'il nous le commande. Parfois, il y a des doutes qui s'installent. Parce qu'au lieu de regarder à Christ, au lieu de croire en ce qu'il nous dit et à l'efficacité de sa mort expiatoire et la perfection dans laquelle il place ses enfants, nous regardons à nos interprétations des choses, à notre ressentiment des choses, à notre comment nous sentons les choses. Hein. Et cela produit souvent du doute. C'est dans la plénitude de la foi que nous devons nous approcher de Dieu, et non dans la plénitude de la compréhension, ni dans la plénitude de des sentiments. Et puis aussi, l'auteur dit qu'on doit s'approcher avec les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hein. Rappelez-vous que la pureté, de la conscience, la perfection de la conscience était quelque chose qui n'était pas possible sous l'enseignement, pour celui qui rendait un culte sous l'ancienne structure lévitique. La Bible dit il n'avait pas la conscience tranquille. Mais le sang de Christ, Hébreux chapitre 9, verset 14, nous dit que le sang de Christ, par l'Esprit éternel, combien le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience, des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Par le sacrifice de Christ, nos consciences sont purifiées. Nous pouvons servir librement Dieu, mais nous pouvons parfois pécher, puis voilà, cela vient tacher notre conscience. Nous devons aussi donc faire attention dans notre vie pour ne pas souiller notre conscience. L'apôtre Paul mettait un point d'honneur à ce que sa conscience ne soit pas souillée. Plusieurs fois, il dit « Dieu que je sers avec une conscience pure ». Il dit même que « devant vous, j'ai une conscience pure ». Il faisait tout pour que sa conscience ne soit pas un obstacle, qu'elle ne soit pas chargée, ne soit pas souillée, ne devienne pas un obstacle au ministère qu'il accomplissait. Et il nous arrive peut-être parfois que de souiller notre conscience avec des petits encarts spirituels ou éthiques. Ne respecte pas convenablement les limitations de vitesse, par exemple, sur les routes. Je dis ça parce que je sais quelque chose. Parfois, c'est sur la fiche d'impôt qu'on oublie quelques petits chiffres ou piratage logiciel, téléchargement illégal. C'est des petites choses, hein. On dit, ça, c'est pas... Hein. Mais ça peut charger la conscience. Au point d'être un obstacle. Parce que l'apôtre Pierre dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » C'est-à-dire, il dit, vous allez faire de l'apologétique, de la défense de la foi. On aime bien ça. Comment je peux défendre ma foi quand je parle à quelqu'un ou par-ci ou par-là qui me dit ceci? Comment je peux répondre à ça? Comment je peux faire la défense de la foi? Il dit... Il faut répondre avec douceur, il faut sanctifier Christ dans vos cœurs pour le faire. Et il ajoute, ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Il dit, vous voulez vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, il faut sanctifier Christ dans vos cœurs en maintenant votre conscience clean. Propre. Parce que s'il y a des choses qui vous gênent, il pourra vous dire, oui, mais toi, tu me dis que tu es un homme honnête, l'évangile, mais tu télécharges légalement. C'est quand même un point sur lequel il appuie. Hein. Et vous ne pouvez pas dire, oui, mais, c'est pas... Non, mais il va vous dire, mais c'est la loi. C'est illégal, la loi condamne cela. Et tu le fais, on peut. Parler la même chose pour les limitations de vitesse ou pour toute autre chose. Hein. Voyez. Et donc cela peut être un obstacle. S'approcher de Dieu avec un cœur pur, avec une conscience lavée, c'est éviter tout ce qui peut charger notre conscience et qui peut être après nous être présenté comme une accusation. Et donc il est important que nous fassions ces efforts-là. Est-ce que nous pouvons dire comme le psalmiste, et je termine là-dessus, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. L'auteur dit ici, nous devons nous approcher de Dieu. Quand on est un enfant de Dieu, et il s'adresse à des chrétiens, nous approcher de Dieu en vertu du sacrifice qu'il a accompli à la croix du calvaire. Nous approcher, car par son sacrifice, Christ nous a amenés à la perfection pour toujours. Deuxièmement, nous devons nous approcher car par son sacrifice, Christ nous offre un plein accès auprès de Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu dans l'intimité, dans la communion avec lui chaque jour de notre vie. Parce que troisièmement, Christ, par son sacrifice, a été établi un grand intercesseur et qu'il intercède pour nous. Est-ce que nous nous approchons de lui comme... Le passage ici nous le commande. Il est important, chers frères et sœurs, de maintenir ces vérités sur le sacrifice de Christ dans notre pensée, dans notre cœur. L'auteur prend 10 chapitres de connaissance avant de donner un mot d'exhortation. 10 chapitres de connaissance du sacrifice de Christ avant de donner un mot d'exhortation. Nous devons faire la même chose. Nous imprégner des vérités concernant l'excellence du sacrifice de Jésus-Christ. Et obéir à partir de ces vérités, en conformité avec ces vérités, au commandement que la parole de Dieu nous donne. Approchons-nous de lui. C'est notre privilège s'approcher du Dieu trois fois saint. Jouir de sa présence. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, ici ce matin, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, eh bien, il faut venir à Christ. Il faut venir à Christ. Et placez votre confiance en lui afin de jouir aussi de cette présence, de la présence du Dieu très saint. La Bible dit que les péchés mettent une séparation entre Dieu et nous. La question du péché doit être réglée. Vous devez venir à Christ, confesser vos péchés, croire en lui afin qu'il vous donne la vie. C'est aussi l'exhortation de notre passage. C'est la première étape pour s'approcher de Dieu. C'est par Jésus-Christ, pas par un autre moyen, par Jésus-Christ, nous pouvons le faire. Que Dieu nous aide vraiment à ne pas avoir tendance à nous éloigner de lui. Parce que parfois nous faisons cela, nous pensons, au moins je suis honnête, je m'éloigne. Dieu ne nous demande pas d'être honnête, il nous demande d'être obéissant à sa parole. Ça c'est notre honnêteté selon nous. Au moins, je suis honnête, je participe à la table. Au moins, je suis honnête, je ne fais pas ceci, je ne suis pas hypocrite. Je sais que ça ne va pas dans ma vie, je m'éloigne. Non ! Le commandement de Dieu n'est jamais « éloignez-vous ». Mais approchons-nous. Mettons tout en règle pour que nous puissions jouir de sa présence. Il nous a rachetés, nous lui appartenons, nous sommes son peuple. Et il veut que nous partagions sa sainte présence. Prions.